Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marco Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertille Bourdon et Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Julien Calvas. Deuxième volet de notre série consacrée aux transitions politiques en Afrique. Après avoir évoqué hier les suites du coup d'État au Mali, avant d'aborder demain la menace sécuritaire de la Libye au Burkina, jeudi le poids de l'Église en République démocratique du Congo mais aussi au Burundi, tournons-nous aujourd'hui vers la Côte d'Ivoire où la tension monte à l'approche du scrutin présidentiel.
Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020.
Nous attendions cette décision et vous voyez la joie de la jeunesse.
Nous avons souhaité haut et fort et nous les soutenons pour un troisième mandat pour la stabilité et la tranquillité de la Côte d'Ivoire.
Manifestons pour le départ du président Ouattara. Parce que la constitution a été violée et nous ne voulons pas accepter un troisième mandat. Nous demandons à toute la population ivoirienne de faire partie Ouattara par tous les moyens pacifiques.
Il avait promis de ne pas se présenter à un troisième mandat interdit par la constitution ivoirienne, mais à la suite du décès soudain de son dauphin et premier ministre Amadou Gon Coulibaly cet été, le président Alassane Ouattara a finalement annoncé briguer sa propre succession. Pour le justifier, il brandit la réforme constitutionnelle de 2016, assurant qu'une nouvelle loi fondamentale ayant été adoptée, eh bien son prochain mandat ne sera pas le troisième, mais le premier de la Troisième République. Un raisonnement inaudible pour ses opposants, qui se sont ralliés à l'appel du principal d'entre eux, Henri Conan Bédier, à la désobéissance civile. Henri Conan Bédier, ancien président lui-même. Si leur initiative n'a pour l'heure qu'un impact limité, le pouvoir ayant interdit les manifestations en raison du Covid, les discours se polarisent sur les réseaux sociaux, laissant craindre un retour de la violence. En août, une quinzaine de personnes sont mortes lors de rassemblements de protestations qui ont suivi l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara. Une décennie après la guerre civile, son spectre se ranime à un mois d'un scrutin que l'opposition accuse le pouvoir d'avoir verrouillé. Outre la nouvelle candidature de Ouattara, elle déplore en effet que seuls 4 des 44 candidats initiaux étaient autorisés à concourir par le Conseil constitutionnel. Alors pourquoi Alassane Ouattara est-il revenu sur sa promesse de ne pas se présenter alors que de nombreuses figures de son parti auraient pu remplacer son dauphin décédé? Dans quelle mesure l'opposition est-elle unie face à sa candidature? Et comment expliquer qu'au sein même de cette opposition, le renouvellement générationnel ne semble pas s'opérer davantage que dans les rangs du pouvoir, les mêmes candidats revenant depuis des décennies? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Richard Banega. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques aux séries Sciences Po. C'est un pays, on en parlait juste avant de commencer, que vous suivez depuis maintenant assez longtemps, depuis quasiment une vingtaine d'années.
Ah oui.
Au moins. Avec nous, alors il est peut-être pas encore arrivé, c'est Ousmane Zina qui est maître de conférence de sciences politiques à l'université Alassane Ouattara. Il est pas encore là, ça ne serait tardé. Ça y est, il est arrivé Alassane Zina. Ousmane Zina, pardon, est-ce que vous m'entendez? Pas encore. Eh bien, c'est pas grave. On va commencer avec vous, Richard Banega. Tout le monde a évidemment en tête les terribles violences post-électorales, Richard Banega, de 2010-2011, autour des deux candidats, le président sortant de l'époque, Laurent Gbagbo, et puis Alassane Ouattara, qui revendiquaient tous deux leur victoire. Les violences avaient fait un peu plus de 3200 morts selon les Nations Unies. Et puis, par ailleurs, on se souvient aussi d'un autre moment très difficile, cette guerre civile en 2002-2003, avec cette rébellion rassemblée sous cette coalition de mouvements rebelles baptisée Force Nouvelle de Côte d'Ivoire, à la tête de laquelle se trouvait Guillaume Soro. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler parce que c'est devenu un incontournable du paysage politique ivoirien. Mais officiellement, Richard Banega, la campagne n'a pas commencé. Elle commence le 15 octobre, sauf qu'on est déjà en réalité en pleine campagne. Il y a eu cet appel à la désobéissance civile d'Henri Conan Bédier. Comment vous voyez les choses? Comment vous voyez les semaines qui viennent? Est-ce que on peut trouver le chemin d'une élection sereine? Ou est-ce qu'il vous semble inévitable qu'à un moment, une nouvelle crise post-électorale n'advienne?
Il est toujours difficile de faire des prédictions et je souhaite évidemment pour tous nos amis ivoiriens que les choses se passent au mieux dans leur pays. Il est pas évident, en revanche, que cette élection se tienne dans des conditions sereines, comme vous le disiez. Tous les indicateurs semblent au contraire aujourd'hui pencher pour voilà une situation de plus en plus tendue. Hein. Vous l'avez rappelé dans votre introduction, la candidature d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat a effectivement suscité une très très large vague de protestations, avec une opposition qui, pour la première fois, s'est unie sur des bases effectivement assez étonnantes. Hein. C'est un petit peu le mariage de la carpe et du lapin, notamment entre l'ancien président Bédier et l'ancien président Laurent Gbagbo, mais on pourra sans doute y revenir. La comparaison avec 2010 est dans toutes les têtes, évidemment, puisqu'on se souvient que la crise post-électorale avait fait plus de 3000 morts et avait conduit à, disons, un nouvel épisode de la guerre civile qui avait débuté au début des années 2000 et qui avait mis face à face deux appareils de sécurité qui aujourd'hui sont plus du tout dans les mêmes conditions. Donc je crois que la réédition de 2010 n'est pas vraiment à l'ordre du jour. On pourrait plutôt faire référence à 1980 ou lors d'une précédente élection présidentielle, le président Bédier avait déjà à cette époque écarté la plupart de ses candidats et avait suscité une vague de préapprobation et de boycott de la part de l'opposition.
Mais aujourd'hui, l'appareil sécuritaire, vous dites, est plus unifié en tout cas qu'il y a 10 ans.
Alors c'est très compliqué, Ousmane Sina, qui connaît très très bien ce sujet, pourra vous en parler sans doute mieux que moi. Ce qu'il faut savoir, et de manière extrêmement caricaturale, pardonnez-moi, pour faire comprendre aux auditeurs, c'est que l'actuel appareil de sécurité est le produit d'un mixage, mais et surtout d'un héritage, qui est celui de la rébellion. Lorsque Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir dans les conditions calamiteuses que l'on sait en 2011, vous le savez, il avait été élu certes dans les urnes, mais il est arrivé au pouvoir par la force des armes, avec le soutien de la rébellion qui tenait le pouvoir qui tenait le nord du pays depuis une dizaine d'années.
Et c'est le soutien d'une partie de la communauté internationale, notamment
bien sûr,
de la France
et de la France, et qui a été absolument décisive. Vous avez raison de le rappeler, c'est absolument crucial. Cette armée-là, de la rébellion, s'est constituée en quelque sorte en armée nationale. Il y a eu même un décret lorsque Ouattara était à l'époque à l'hôtel du réfugié, l'hôtel du Golfe, qui transformait la rébellion en force républicaine de Côte d'Ivoire, un collègue avait écrit sur ce sujet-là, et c'est cet appareil-là finalement qui est aujourd'hui au cœur du pouvoir et a été mixé avec l'ancienne armée nationale. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'armée nationale de Côte d'Ivoire reste en grande partie marquée par ses origines rebelles, et la place notamment des anciens commandants de zone, les anciens chefs de la rébellion au sein de l'appareil sécuritaire demain extrêmement importante.
Ousmane Sina, ça y est, on doit vous avoir trouvé. Est-ce que vous m'entendez, Ousmane Sina ?
Oui, je vous entends.
Nous aussi, parfaitement. On vous salue et on vous remercie d'être avec nous ce matin. On engageait la conversation avec Richard Banega et on rappelait le contexte de 2010-2011. Et Richard Banega appuyait sur, évidemment, le rôle qu'avait joué la question sécuritaire, l'opposition, au fond, entre deux fronts sécuritaires. Est-ce que vous diriez, vous, aujourd'hui, que les transformations de l'appareil sécuritaire font que on devrait, a priori, échapper à une nouvelle crise post-électorale, ou vous avez encore des inquiétudes, Ousmane Sina ?
Oui, je pense que le contexte de 2010 et le contexte de 2020 sont totalement différents, dans la mesure où, effectivement, en 2010, on a deux forces armées opposées. On a une séparation du pays qui est assez claire, une partie du territoire qui est dirigée par les forces nouvelles et une autre partie par les forces de défense et de sécurité. On a deux ténors de la scène politique qui s'affrontent ouvertement, clairement, que sont le président Ouattara et le président Bédier, et pardon, le président Laurent Gbagbo. Et là, Abidjan, dans ce contexte-là également, Abidjan, sous le régime Laurent Gbagbo, était vraiment tenu par des milices politiques privées et militaires. Il y avait une maîtrise du territoire au niveau du sud et au nord, une maîtrise du territoire par les forces nouvelles. Mmh. Et là, en 2020, le contexte il est différent. On voit effectivement le retour de l'État et une volonté pour les nouvelles autorités d'afficher effectivement ce monopole de la violence physique qui se voit. On voit un régime qui monte en puissance et qui tend de gérer au mieux l'appareil sécuritaire. Mais c'est pas aussi évident que ça, parce que Au sein de cet appareil sécuritaire, effectivement, c'est un mélange de genres. Vous avez les forces nouvelles issues de la rébellion qui ont une position assez forte au sein de cet appareil et qui, pour l'instant, a su une certaine fidélité au président Ouattara. Maintenant, vous savez, en dessous, on ne maîtrise pas tout. Maintenant, également, crise post-électorale, possible au regard des tensions perceptibles en ce qui concerne les différents acteurs politiques, des tensions qui se voient également au niveau du corps social ivoirien, parce que la polarisation sociopolitique est plus forte aujourd'hui, même si c'est vrai qu'il n'y a pas de séparation au niveau du territoire, mais les polarisations sont vraiment là. La question de la réconciliation a vraiment échoué. Et donc, ces éléments mis ensemble peuvent contribuer effectivement à déclencher une crise post-électorale si les choses se passent pas bien.
On reviendra sur la question de la réconciliation. Richard Benega, vous vouliez intervenir. Je vais vous laisser réagir. Et puis, je voudrais qu'on s'interroge sur une question fondamentale qui est celle des candidatures. Parce que je le disais dans mon introduction, 44 candidats officiellement au départ. 4 seulement retenus, dont précisément Henri Conan Bédier, ancien président, mais en gros, les autres poids lourds qu'on a déjà évoqués, c'est-à-dire Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, alors qui est un cas un peu à part, il n'empêche que il voudrait bien rentrer dans la course à la présidence. Ces gros poids lourds du paysage politique ivoirien, jusqu'ici, ils ont été écartés. Et il y a quand même une vraie interrogation à avoir sur l'utilisation ou non de la loi électorale, de la question judiciaire pour écarter les opposants politiques d'Alassane Ouattara. Richard Benega.
Oui, et cette question effectivement des critères juridiques ou constitutionnels qui président effectivement à la sélection des candidatures est toujours posée. Et ça n'est pas une question nouvelle, car déjà, je le disais en 95, puis ensuite en 2000 également, lors de la précédente élection présidentielle, les mêmes types d'exclusion politique avaient eu cours. Donc on a clairement une instrumentalisation politique.
Conan Bédier avait été interdit, disqualifié d'élection en 2000.
Voilà, et lui-même auparavant avait disqualifié ses prétendants. Donc c'est une vieille histoire. D'instrumentalisation du droit dans les luttes politiques pour la magistrature suprême. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on est dans une phase critique, c'est-à-dire que le pays a connu toutes ces années de guerre, comme nous le disions. Pendant ces années de guerre, et ça c'est quelque chose sans doute sur lequel nous reviendrons, de nouvelles générations ont émergé. De nouvelles générations politiques, militaires également, on l'évoquait à l'instant avec les commandants de zone et puis leurs bons petits, comme on les appelle, leurs éléments. Des générations politiques qui se sont aussi constituées, disons, une expérience déjà à l'époque dans le contexte des luttes syndicales étudiantes, puisque des deux côtés de la ligne de front, je rappelle cela parce que c'est important aussi aujourd'hui, du côté pro-Gbagbo ou du côté des forces nouvelles, nous avions des leaders politiques, Charles Blégoudé d'un côté, Guillaume Soro de l'autre, tous deux issus de la FESI, la fameuse Fédération Estudiantine Scolaire de Côte d'Ivoire, ce puissant syndicat étudiant qui a été l'école de la politique pour nombre d'entre eux, comme Guillaume Soro lui-même l'a écrit dans son livre. Et donc, pendant toutes ces années-là, ce sont ces figures-là qui se sont forgées à la politique dans la violence, y compris au sein des luttes syndicales, qui se sont affirmées sur le devant de la scène. Et y compris au détriment, disons, des quarantenaires ou des quinquagénaires qui s'étaient formés durant les années Oufouette par des carrières de l'ascension sociale classique. Okay. Et ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que ces trentenaires qui étaient au cœur du conflit dans les années 2000 et qui sont devenus presque aujourd'hui quinquagénaires, attendaient leur tour et attendaient effectivement que au terme des deux mandats du président Ouattara, eh bien, un renouvellement générationnel s'opère à tous les échelons de la société et en particulier dans le champ politique. Or, on le voit aujourd'hui, tout est bloqué, que ce soit pour, disons, l'élection qui se présente pour d'autres postes, cette espérance de renouvellement générationnel est bloquée, ce qui, disons, au-delà, c'est ça que j'essaie d'expliquer, au-delà des aspects strictement, électoraux, constitue un potentiel, disons, d'explosion sociale assez important.
Sur cette question, Ousmane Zina, cette question de l'incapacité, en tout cas, de mettre en place ces nouvelles générations qui existent en réalité, comment vous expliquez la chose? Et est-ce qu'il pourrait y avoir une forme de forçage? Je vais redire ce que je disais tout à l'heure en introduction, puisque l'ancien président Henri Conan Bédier, qui est aujourd'hui le principal opposant, en tout cas le seul aujourd'hui en capacité à s'opposer, puisqu'il a été lui autorisé à concourir. Lui appelle à la désobéissance civile. D'aucuns disent même qu'il pourrait aller plus loin et, au dernier moment, au fond, faire un appel au boycott généralisé de sorte à totalement délégitimer ce scrutin et peut-être, d'une certaine manière, renverser la table. Qu'est-ce que vous pensez de ce scénario, Ousmane Zina, et plus généralement, au fond, de cette incapacité à faire rentrer dans le jeu politique ivoirien de nouvelles figures?
Oui, pour répondre à cette grande interrogation qui revient constamment, il est clair que le renouvellement générationnel au niveau politique ne se fait pas en Côte d'Ivoire, sinon qui il est retardé. Il est retardé d'une manière ou d'une autre par le fait des anciens qui voudraient être sûrs que dans la transmission du pouvoir politique ou dans le passage à une génération politique, ces anciens veulent être sûrs de continuer à maîtriser les manettes. Et ça se voit depuis près de 30 ans, ce sont les mêmes figures politiques qui s'affrontent sur la scène politique ivoirienne. C'est vrai que le président Ouattara avait posé ce préalable en mars 2020 lorsqu'il décidait de ne plus être candidat en mettant en avant l'idée de transition générationnelle pour mettre la pression sur les autres. Mais en réalité, cette idée de transition générationnelle proposée par le président Ouattara devrait se faire selon son bon vouloir, selon ses orientations, raison pour laquelle il a lui-même choisi le candidat, le regretté Koulibaly. Du côté du PDCI, on a généralement une boutade ici en Côte d'Ivoire qu'on utilise pour résumer ce qui se passe dans ce parti. Comme on le dit au PDCI, il y a des jeunes vieux, il y a des vieux jeunes. Voilà, des jeunes vieux, ce sont des jeunes effectivement qui, à force d'espérer devenir comme les aînés, se retrouvent vieux, des vieux jeunes, c'est-à-dire des vieux qui se considèrent toujours jeunes. Et c'est le cas avec ce qu'on voit dans ce parti-là. Le président Henri Konabédi a réussi à écarter tous les adversaires, des jeunes comme Jean-Louis Bion qui avait des ambitions, était obligé de se retrouver dans un silence profond. Également, vous avez Kakabé, qui le candidat Kwadio Konan-Bertin, qui était candidat à la candidature au niveau du PDCI, qui finalement s'est retrouvé éjecté, qui devient candidat indépendant, éventuel compétiteur face à Ouattara au cas où les autres se retirent. Et donc on a effectivement cette crispation générationnelle qui en réalité se fait en défaveur des plus jeunes. Autre chose, du côté des jeunes eux-mêmes, je pense qu'il y a une sorte de découragement en la jeunesse. La jeunesse ne croit plus à la politique en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on avait ces jeunes rêveurs assez forts qui ont été, que sont toujours Blé Goudé et Soro Guillaume, qui ont pris les devants de la politique en Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas des modèles émergents comme eux qui osent. On a une jeunesse aujourd'hui qui essaie de résoudre les problèmes qui s'opposent à elle, à savoir le problème du chômage, le problème de l'emploi, le problème de l'ascension sociale et économique. C'est ce que l'on voit, la preuve au niveau d'Abidjan, dans les quartiers feutrés d'Abidjan et résidentiels, le taux de participation aux élections, les taux de participation généralement sont très faibles dans ces quartiers, ce qui montre effectivement que cette jeunesse éclairée, cette élite de demain, se sent totalement désintéressée. Autre élément dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est le rapport aîné et cadet qui structure les rapports politiques entre les jeunes et les anciens. Et c'est à géométrie variable. Dans certains partis politiques, on estime que l'ascension des jeunes doit se faire sur le temps long et avec la bénédiction des anciens. Par contre, dans d'autres partis politiques, on préfère ouvrir le jeu directement. C'est le cas d'un parti d'opposition. Je pense que le parti de Mamadou Koulibaly, lui, il met en avant les jeunes compétitifs dans l'idée qu'ils s'intéressent vraiment à la politique. Donc, on a effectivement ces échelles-là. Mais finalement, ce que l'on doit retenir, c'est que la guerre d'héritage après Félissou Fodboigny a totalement enfoncé la jeunesse dans sa volonté de prendre la place de ces anciens qui finalement sont en train de mener, pour mon avis, le dernier round d'une lutte qui a commencé depuis 30 ans.
Richard Banega, je vais vous laisser réagir. Et puis, pour poursuivre un tout petit peu ce que dit Ousmane Zina, c'est vrai qu'il faudrait peut-être se pencher sur ce qui s'est passé après Oufouet Banni. Parce qu'il y a à ce moment-là deux acteurs qui sont déjà là dans le paysage politique. C'est évidemment Ouattara et Konan Bédié. Les deux sont déjà là. Et il va y avoir, c'est vrai, une véritable bataille politique entre les deux sur laquelle il convient peut-être de revenir parce qu'ils ont été opposés, ils ont été alliés. Il faut revenir sur ce duo-là qui est important à comprendre. Et derrière, évidemment, cette question de l'ivoirité qui a été introduite dans les débats de la société ivoirienne et qui a fait tant de mal.
Oui, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur ce que disait mon ami Ousmane Zina sur la question notamment de l'attitude des jeunes, parce que ça me paraît crucial aujourd'hui, mais effectivement, peut-être un petit retour en arrière est absolument nécessaire aussi pour comprendre, sinon l'intensité, en tout cas la profondeur de la crise que traverse encore aujourd'hui le pays, car comme vous le disiez fort justement, cette, disons, rivalité politique qui oppose aujourd'hui Ouattara, Bédier et Laurent Gbagbo date, si vous voulez, de la fin du régime Oufouette, hein, le président.
93, la mort d'Oufouette.
Voilà, fin 93, Oufouette n'avait pas véritablement prévu de dauphin, il n'avait en quelque sorte deux, puisque Henri Conan Bédier était président de l'Assemblée nationale et donc héritier constitutionnel putatif et Alassane Ouattara premier ministre à l'époque, et c'est la compétition entre ces deux figures-là héritières de l'oufouettisme qui a conduit, disons, le pays dans une grave crise politique et qui a fait surgir d'ailleurs l'ivoirité mobilisée par Henri Conan Bédier devenu président pour écarter de la course, donc en 1995, de la course à la présidence, son rival Alassane Ouattara au motif qu'il était moins ivoirien que les autres, que sa nationalité portait à confusion. Le problème, c'est que cette problématique de l'ivoirité qui avait au départ, si vous voulez, des intentions purement politiciennes d'écarter un rival, eh bien, a percolé dans tout le pays, y compris dans les campagnes les plus éloignées, pour tout un tas de raisons dont je n'ai pas le temps d'entrer en détail. Ce qu'il faut surtout comprendre aujourd'hui, c'est que cette problématique-là continue de travailler le pays. Continue de travailler le pays en profondeur. Nous avons mené de très nombreuses enquêtes avec les collègues sur ces sujets depuis de nombreuses années. Le changement de régime avec l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir a été vécu par nombre de personnes qui avaient été victimes de l'ivoirité comme une délivrance, hein, comme une porte de sortie et en quelque sorte une garantie qu'enfin leur citoyenneté et leur pleine nationalité seraient reconnues. Quelques réformes ont été engagés notamment sur le plan, disons, de la délivrance des papiers, de l'inclusion administrative des populations, mais cela n'a pas été traité au fond. Hein, ce sont des réformes qui ont été abordées sous un angle essentiellement technique, avec les nouvelles technologies de la biométrie, etc., etc., sans que jamais véritablement ce débat sur qui est ivoirien ou qui ne l'est pas soit véritablement traité au fond, alors que ça avait été au cœur de la crise des années 90 et surtout de la guerre des années 2000.
Est-ce que c'est une critique, Richard Banega, que vous faites en creux? Et ensuite, je donnerai la parole à Ousmane Zina, à Alassane Ouattara, qui pourtant était directement touché par ces questions-là, puisqu'effectivement, il a été disqualifié de la course à la présidentielle pour cette raison-là, avec ce concept d'ivoirité qui a émergé, alors qui a été utilisé politiquement, mais qui en réalité s'est diffusé à l'ensemble de la société ivoirienne. Est-ce que là, on peut dire qu'au fond, tout le travail d'Alassane Ouattara sur ce sujet de la réconciliation nationale, de la déracialisation, peut-on dire, des ethnicialisations, de la société n'a pas été fait.
Je crois qu'en fait, de manière assez, prudente, Alassane Ouattara et son gouvernement a d'entrée préféré mettre en quelque sorte ces sujets sous le tapis et faire le pari d'une paix par la croissance, hein, d'une paix par les réformes économiques, par, disons, la prospérité, ce qui, d'une certaine façon, a en partie réussi, puisque la Côte d'Ivoire connaît, depuis la fin de la guerre, des croissances à deux chiffres, avec des réalisations absolument spectaculaires.
Pensez qu'il a eu tort de laisser sous
croissance? J'y viens, parce que, effectivement, la paix par la croissance, ça ne fait pas tout. Un, ça laisse beaucoup de gens sur le côté de la route, parce que évidemment le goudron ne se mange pas, comme l'écrivait mon ami Fassissa Kindness, et parce que aussi, évidemment, des grands sujets politiques comme celui que nous venons d'évoquer n'ont jamais été véritablement traités sur le fond. La comité en faveur de la réconciliation nationale qui avait été mise sur pied n'a pas fait véritablement son travail. Elle a même très largement échoué à cet égard. Et je le disais tout à l'heure, l'essentiel qui a été fait pour traiter ces questions, notamment d'inclusion civique, l'a été de manière technique, sans que jamais véritablement le débat soit posé, notamment à l'Assemblée nationale.
Ousmane Zina, qu'est-ce que vous en pensez, vu de la Côte d'Ivoire? Vous avez le sentiment aussi qu'on n'a pas fait ce travail de questionnement autour de l'identité ivoirienne, autour de la nation ivoirienne, et peut-être qu'on pourrait se demander la place qu'elle a aujourd'hui dans les débats, dans la campagne actuelle. Ousmane Zina.
Oui, je crois fermement que la catharsis n'a vraiment pas eu lieu en Côte d'Ivoire. Ce qu'on appelle table rase en fait de toutes ces années de conflit, dans l'idée de forger un véritable contrat social, un nouveau pacte social qui réunisse vraiment les Ivoiriens. Ce qui s'est passé depuis 1990, on ne fait que déplacer le problème et on tente de trouver au fil des régimes des solutions rapides. Effectivement, l'arrivée d'Alassane Ouattara se présentait effectivement comme cet espoir, cette occasion de remettre la question de la nation, de la nationalité, de l'être ivoirien sur table et de discuter profondément. Mais il se trouve que l'occasion constitutionnelle, l'occasion de la réforme constitutionnelle de 2016 n'a pas permis d'aller au fond en fait du débat. La preuve, c'est que un comité d'experts a été mis en place pour réfléchir sur la Constitution. Ensuite, le peuple est intervenu à la fin du processus par la voie référendaire. Et donc, ces débats que l'on attendait dans l'idée de réconcilier véritablement les Ivoiriens n'a vraiment pas eu lieu. Et aujourd'hui, chaque acteur politique est dans une logique, comme je le dis souvent, on est dans une sorte de jeu à somme nulle en Côte d'Ivoire. On veut être sûr de toujours gagner et sans perdre. Et l'adversaire également a envie d'arriver au pouvoir et d'avoir la manette du pouvoir. Donc on est vraiment dans ce calcul-là. Et dans le même sens que Richard Banega, effectivement, on a forgé ici en Côte d'Ivoire, notamment le régime Ouattara, depuis 2011, une paix, une réconciliation par la croissance économique, en mettant en avant l'idée que la croissance économique permettrait effectivement aux Ivoiriens de penser bien-être, de penser développement, et que par ce fait-là, on ne poserait pas sur table, on ne reviendrait pas sur ces questions qui divisent. Mais malheureusement, on se rend compte effectivement que, en réalité, il y a une demande de réconciliation. En 2015, ça existait lors des élections présidentielles de 2015. Les différents candidats qui étaient allés à ces élections mettaient la question de la réconciliation au cœur. Encore en 2020, c'est une question vraiment inépuisable. Cela montre en réalité que le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de se retrouver, a besoin de définir cette nation.
Justement, Ousmane Dina, pardon de vous couper, mais vous dites que c'est une question inépuisable en Côte d'Ivoire. Est-ce que finalement la stratégie d'Alassane Ouattara a été si mauvaise que cela? L'économie s'est plutôt bien portée durant la décennie Ouattara, vous le disiez, 7-8% de croissance, on est sur des niveaux de croissance qui sont supérieurs en réalité à la moyenne régionale. Faut pas oublier que Alassane Ouattara a toujours eu cette réputation de très bon technocrate, il a travaillé au FMI, etc., ce qui lui donne évidemment, j'imagine, des compétences particulières en la matière. Mais au fond, quand on regarde la situation sociétale aujourd'hui, on a un pays qui est plutôt calme. Alors bien sûr, c'est un calme relatif. Bien sûr, on sait que l'explosion n'est jamais loin. Mais au fond, aujourd'hui, on a une société qui est relativement sereine. On n'a pas aujourd'hui des gens qui sont en train de s'entretuer dans la rue à la veille de l'élection présidentielle. Alors, bien sûr que cette question est toujours là, mais est-ce qu'il n'a pas eu la bonne posture, c'est-à-dire celle du développement économique, de la promesse de la prospérité, plutôt que d'aborder de front cette question identitaire qui est potentiellement explosive?
Oui, moi je pense que en fait c'est une formule de fabrique de la paix par la croissance économique qui a très bien marché, hein, ça il faut le souligner. Richard le disait tantôt, effectivement ça marchait, la croissance ivoirienne fait rêver. Effectivement, on sent une certaine prospérité au sein de d'une classe en Côte d'Ivoire. Ça marche très bien, c'est une réussite, mais en même temps il faut souligner que on est toujours rattrapé par les divisions sociales que l'on ne maîtrise toujours pas. Et pour moi, la question de la réconciliation ne doit pas être analysée purement d'un point de vue, du point de vue de l'économie, du point de vue de l'économie politique. Il n'y a pas que la croissance au cœur du social. Il y a lieu d'amener les populations à parler. C'est ce que j'appelle cette réconciliation par le haut, en fait. Une réconciliation par le haut qui est très macroéconomique, qui marche, mais qui n'intègre pas partout tout le monde. Par contre, une conciliation par le bas, comme on l'a vu avec d'autres commissions Dialogue et Vérité en Afrique du Sud, dans les pays d'Amérique latine, dans d'autres pays, voilà, le peuple est au, la population est au cœur, on se parle à nous-mêmes, on se parle entre nous-mêmes pour redéfinir en fait l'être ivoirien. Et ça, ça manquait. Et vous voyez que malgré ce taux de croissance qui fait rêver, l'inquiétude d'une reprise de tension est toujours là. C'est parce que effectivement on est dans une fabrique de paix par la croissance, mais on n'est pas dans une paix positive sur la longue durée, et donc les tensions viennent comme ça au cœur de la croissance, repartent, mais il faut réussir à les maîtriser totalement, à mon avis, pour que le peuple se retrouve effectivement.
Richard Banega, vous vouliez intervenir.
Oui, parce qu'effectivement, je rejoins tout à fait Ousmane dans ce qui vient d'être dit. Le pari d'une paix par la croissance était sans doute un pari tout à fait légitime au sortir de la guerre, parce qu'il fallait, j'allais dire, comme on dit en Côte d'Ivoire, mettre bas la terre, hein, et dépolitiser les tensions. Donc c'est ce qui a été fait, au point, comme aussi le disait Ousmane à l'instant, que une bonne partie de la jeunesse désormais se détourne de la politique en disant, tout ça, ce sont des politiques aériennes, on veut plus entendre parler de ces vieux politiciens, ou ce qui nous intéresse, c'est juste de trouver un bon job, etc. Je prenais un exemple, vous voyez, on était à l'internat, une scène du Zouglou et du coupé décalé bien connu de Youpougon avec des amis en janvier dernier. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que bien cette jeunesse-là qui venait s'amuser à l'internat était, comment dire, enthousiaste aux paroles de ce fameux DJ Korozen qui draine des foules aujourd'hui, mais qui chante aujourd'hui un Zouglou et un coupé décalé qui n'a rien à voir avec les musiques politiques de l'époque, hein, qui vantent simplement la réussite personnelle, individuel, matine évidemment aussi un petit peu d'évangélisme. Mais je crois que c'est assez intéressant aussi d'observer effectivement que ces imaginaires de la réussite en Côte d'Ivoire, notamment chez une partie de la jeunesse, sont de plus en plus déconnectés de la politique, ou en tout cas en apparence, hein, parce que c'est ça qui est, je crois, très, très important. Et ce qui est, deuxième point, je crois absolument capital dans cette histoire-là, c'est que sans doute le pari était légitime au départ, mais il n'a pas été tenu pour les raisons, comment dire, que l'on vient d'indiquer, à savoir que cette croissance-là, elle a été loin d'être inclusive, à la fois sur le plan territorial et surtout sur le plan social, avec des inégalités absolument criantes, comme nous le disions tout à l'heure, y compris sur le plan spatial, dans la ville même d'Abidjan, où l'on voit une marina qui va sortir de l'eau très bientôt dans la lagune, à côté des quartiers en miettes d'Adjamé. Donc il y a des contrastes tellement violents comme ça sur le plan socio-économique dans le pays, que c'est vraiment, disons, un ferment aussi de violence. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire, sauf que dans le pays, il y a déjà une histoire de violence. Et puis, dernier point, je crois que cette question de la réconciliation par la croissance, elle a fait peu de cas, hein, effectivement aussi de la question de la justice, hein, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, ce sont deux mémoires de la guerre qui se font face et qui ne sont toujours pas réconciliées.
Mais est-ce que cette dépolitisation, en tout cas en apparence, du paysage culturel ivoirien ne cohabite pas avec une autre chose que serait la polarisation d'autres franges de la jeunesse, parce que on a aussi, y compris aujourd'hui, des jeunes qui soutiennent de façon très massive, alors Ouattara, mais aussi l'ancien président, par exemple, Laurent Gbagbo. Les soutiens de Gbagbo ne sont pas seulement des gens qui ont 50-60 ans. On trouve des soutiens extrêmement jeunes, Richard Banega. Donc, est-ce qu'on n'a pas aussi une polarisation au niveau de la jeunesse entre les deux camps?
C'est pour ça que tout à l'heure je disais une dépolitisation apparente, car effectivement dans le pays, y compris parmi les jeunes, effectivement il y a en fait les affiliations partisanes dans le pays sont très fortes. C'est un des pays, sans doute la Côte d'Ivoire, où l'emprise partisane, comme on dit en sciences politiques, est des plus fortes. J'étais à Yopougon, dans un quartier qui était aussi un bastion de Laurent Gbagbo, le soir même de son acquittement à la CPI, parmi les fameux jeunes patriotes qui à l'époque tenaient la rue et qui avaient, vous vous en souvenez peut-être, constitué des agora, des parlements de la rue, un petit peu dans toute la partie sud du pays, et ils contrôlaient effectivement comme ça, les villes. Et ces parlements ont ressurgi récemment, et donc le jour de cet acquittement, il fallait voir la ferveur absolument extraordinaire qui s'est manifestée, et on constate effectivement que le retour de Gbagbo, comme l'écrit mon collègue Armando Coutolo, touche aujourd'hui à une espèce de millénarisme en quelque sorte, qui porte des foules assez fortes, hein, je dirais pas des foules immenses, parce qu'évidemment, ces foules-là contraintes aussi par la répression.
Mais très convaincu.
Du 2020, mais très convaincus, hein, et en tout cas convaincus que leur champion est doté d'une puissance invincible. Il a vaincu la CPI, il a vaincu les bombes de Sarkozy, donc il est potentiellement de retour.
Alors justement, Ousmane Zina, il est potentiellement de retour, Laurent Gbagbo. La semaine dernière, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné la réintégration de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo sur la liste électorale, parce qu'en fait, il n'y figurait plus sur ces listes électorales du fait de sa condamnation par contumace en 2018 à 20 ans de réclusion. Pour rappel, Richard Banega le disait, il a été acquitté, Gbagbo, en première instance de crimes contre l'humanité par la CPI, et il attend en Belgique un éventuel procès en rappel. Il a dit très clairement que lui, il avait pour objectif de se lancer dans la course. Est-ce que ça vous semble possible et quelles conséquences politiques et sociales voyez-vous à un éventuel retour de Laurent Gbagbo sur la scène politique, Ousmane Zina?
Oui, vous savez, Laurent Gbagbo, c'est une figure importante de la scène politique ivoirienne. Et je pense que sa condamnation, sa présence à la CPI durant toutes ces années-là n'a pas totalement affaibli la figure de Laurent Gbagbo. D'ailleurs, je dirais que sa figure a d'ailleurs été renforcée parce qu'il est attendu par ses partisans. Son retour est vraiment attendu et il continue d'influencer le jeu politique en Côte d'Ivoire et d'avoir des avis clairs et nets sur l'évolution de son parti politique, le FPI. Et donc, il demeure une figure assez forte dans le jeu politique. Et en ce qui concerne ces élections, c'est vrai, il n'a pas fait une déclaration de candidature en soi, de façon claire, mais c'est militant. Où un regroupement de partis politiques a décidé d'aller déposer ses dossiers, les dossiers de Laurent Gbagbo en son nom et pour son compte, sans que lui-même n'ait demandé à être candidat. Cela prouve en réalité que c'est une figure importante du jeu politique et que son retour, forcément, ne passera pas inaperçu. Il est clair que quand il vient en Côte d'Ivoire, ça sera une mobilisation ou un retour du FPI Laurent Gbagbo de l'époque, possible. La question qui reste posée, c'est est-ce qu'il aura la même énergie, la même force pour continuer le combat, ou alors il travaillera à mettre en place une transition qui puisse continuer son œuvre. La question se pose à ces niveaux. Et autre élément, c'est de savoir comment est-ce qu'il négocie, comment est-ce qu'il négociera son retour avec le parti qui sera au pouvoir. Si c'est ce Ouattara qui a toujours le pouvoir, il est clair que l'objectif du RHTP sera de les laisser rentrer, mais être sûr qu'ils ne soient pas ce troublion de la scène politique ivoirienne. Et donc, c'est pas une figure qui a disparu. Bien au contraire, il y a une croyance forte du côté de ses militants en son retour et que ils pensent à Gbagbo comme effectivement cet homme providentiel que la Côte d'Ivoire ait perdu. Il y a une logique très transcendantale dans ce retour-là. Il est attendu par ses partisans comme entre guillemets ce messie qui viendra changer la Côte d'Ivoire ou qui continuera le laisser quoi. Donc en fait son passage à la CPI est vu par ses partisans comme une sorte de entre guillemets de pèlerinage et que il reviendra effectivement sur le territoire ivoirien comme un nouvel homme, un saint de la scène politique entre guillemets. Voilà.
Richard Banega, est-ce que ce retour vous paraît possible? Alors, pour l'instant, il y a un problème de papier. Vous vous intéressez en particulier au papier. Je crois que vous préparez un livre sur ce sujet. On échangeait autour de cela avant de prendre l'antenne. Pour l'instant, il n'a pas de passeport, donc il peut pas revenir en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ça vous paraît possible? Est-ce que l'hypothèse qu'il se retrouve à concourir pour la présidentielle vous paraît possible? Et quelles conséquences politiques ça pourrait avoir?
Non, pour l'instant, c'est assez peu probable, ouais. Effectivement, pour tout un tas de raisons, y compris juridiques et judiciaires, comme vous le savez, puisqu'il a aussi, sous le coup d'un mandat, d'une accusation, d'autres accusations qui sont pendantes en Côte d'Ivoire. Donc si jamais même son casier judiciaire était, vierge de, il ne le pourrait pas de la même manière pour Guillaume Soro, hein, puisque là aussi pour le coup on voit comment la justice a pu être utilisée pour écarter notamment cette figure qui avait émergé pendant le conflit. Donc je pense pas que ce soit une hypothèse de court terme, sinon peut-être après dans une perspective de réconciliation, mais on n'en est vraiment pas du tout à ce stade-là. On est plutôt dans une phase de raidissement des deux côtés de l'opposition et du pouvoir. Et je crois qu'il faut peut-être mesurer ici la capacité justement du gouvernement Ouattara, enfin de Ouattara lui-même, à se maintenir au pouvoir hein, dans la perspective d'une élection qui verrait un boycott de l'opposition ou même des manifestations de grande ampleur, puisque il faut le rappeler aussi, cette problématique du troisième mandat, on l'a vu, a fait tomber quand même un régime voisin au Burkina Faso et Abdoulaye Wade également au Sénégal. Donc c'est quelque chose qui traverse aussi les sociétés d'Afrique de l'Ouest. Il y a une mobilisation relativement forte, je dis bien relativement forte, en tout cas sur ce sujet en Afrique aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, ça n'est pas complètement encore le cas. En tout cas, les sociétés civiles ont du mal à mobiliser sur ce sujet, mais il faut quand même avoir à l'esprit que le régime Ouattara détient évidemment, comme le disait Ousmane tout à l'heure, le monopole de la violence, et il n'hésitera sans doute pas à en user. Mais il faut bien voir quand même que ces forces de sécurité demeurent aussi dans une relative instabilité. Hein, on l'a vu en 2017, en 2018, lorsque des mutineries ont éclaté. Et là aussi, la question générationnelle traverse ce champ de la sécurité, puisque les anciens chefs de la rébellion, qui sont aussi aujourd'hui les hommes forts de l'armée nationale, ont de plus en plus de mal à se faire écouter par leurs bons petits, comme on dit, les éléments qui ont été démobilisés ou qui ont été intégrés dans l'armée, qui réclament comme eux de se faire une place au soleil.
S'agissant du Burkina Faso, c'est peut-être le troisième mandat qui a été le mandat de trop, mais en fait, il y en avait eu d'autres. Hein. C'était 24 ans de pouvoir pour Blaise Compaoré, ce qui était évidemment trop. Ousmane Zina, peut-être encore un mot sur justement ce que soulignait une fois encore Richard Banega, qui reste une interrogation depuis ici, c'est-à-dire le fait qu'au fond la société ivoirienne se mobilise assez peu. Alors j'entends qu'il y a une forme de dépolitisation, j'entends évidemment qu'il y a aussi le spectre de la guerre civile qui doit jouer là-dessus. Il n'empêche qu'il y a d'autres pays qui ont été concernés par l'un ou par l'autre et où pourtant on a vu des mobilisations très importante. Regardons ces derniers mois ce qui s'est passé du côté de l'Algérie, par exemple, où on a effectivement, pendant des mois, des années, décrit une société complètement endormie, et d'un coup, finalement, elle s'est réveillée. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez possible du côté de la Côte d'Ivoire? Au fond, on aurait une belle endormie, pas tout à fait endormie, Ousmane Zina?
Oui, je pense que, comparativement aux autres pays, de la sous-région, notamment Sénégal, Mali, Burkina, comme on l'a vu, les différents bouleversements qui ont fait partie certains chefs d'État dans ces différents pays-là, comparativement à ces États, la Côte d'Ivoire ne connaît pas, n'a pas une société civile qui soit assez forte en réalité. Et donc, on n'a pas de leader de la société civile qui émerge, qui réussissent à mobiliser fortement sur le terrain au point de faire vaciller l'État. Pendant les 10 dernières années, la mobilisation qui se voyait sur le terrain, c'était une mobilisation partisane. D'un côté, vous avez Charles Blé Goudé qui faisait la mobilisation des jeunes patriotes. De l'autre côté, vous avez le RDR en connexion avec les forces nouvelles qui également engageaient leur mobilisation sur le terrain. Et donc, la mobilisation était partisane. Et le géopolitique, jusqu'à aujourd'hui, est toujours prise en otage par ces ténors de la scène politique, par ces grands partis politiques qui empêchent d'ailleurs de petits partis politiques d'émerger. Et donc, c'est vrai qu'on a une opposition de plus en plus indépendante qu'on voit avec certains acteurs indépendants, que l'on a vu venir de la société civile durant les élections municipales, mais ce sont quelques personnes. Et ensuite, c'est ces acteurs de la société civile qui essaient le géopolitique sur le temps, se transforment en acteurs politiques ou alors vont jusqu'à négocier leur entrée dans les partis politiques et se retrouver à profiter effectivement les grâces de la logique partisane. Et donc...
Alors, on vous entend plus. Il y a beaucoup de coupures, Ousmane Zina. On va essayer de rétablir une nouvelle connexion pour vous entendre mieux. Richard Banega, pour avancer encore sur cette question liée aux élections en Côte d'Ivoire, il y a aussi un élément qu'on n'a pas encore évoqué sur lequel on pourrait se pencher, c'est la question du soutien de la communauté internationale, d'acteurs étrangers, et on va commencer peut-être par la France. On a rappelé tout à l'heure combien justement l'arrivée d'Alassane Ouattara était aussi liée à un soutien très clair, disons-le, de Paris. Qu'en sera-t-il cette fois? Est-ce que, au fond, la France a tiré les leçons de tout ça et on est une décennie après et d'une certaine manière, on va garder les distances, ne pas trop s'ingérer dans les affaires ivoiriennes, ou est-ce qu'il vous semble quand même que on va, sous une forme et sous laquelle soutenir le candidat sortant, puisque c'était celui qu'on avait soutenu, que Paris avait soutenu en 2010.
Écoutez, je ne suis pas dans le secret des dieux, je n'étais pas à la rencontre qui avait eu lieu au déjeuner entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara il y a quelques semaines de cela, mais je dirais qu'il y a sans doute fort à parier que la France ne sera pas prête à tenter l'impossible pour, qu'un scrutin ouvert et véritablement démocratique se tienne. Sans doute que, à l'instar de l'ONU, hier, Mohamed Ben Chambas, le représentant de l'ONU pour la Côte d'Ivoire, a fait une déclaration qui était quand même relativement modérée. Hein, et donc j'imagine, je ne fais que supputer, que ce sera de même pour nombre de partenaires extérieurs de la Côte d'Ivoire qui ont beaucoup investi, qui sont beaucoup impliqués dans la reconstruction du pays après-guerre, qui ont noué des alliances, économiques, politiques, avec le gouvernement d'Alassane Ouattara, et qui sont sans doute pas prêts à tirer un trait sur cette histoire-là. Je crois que c'est quelque chose d'évidemment capital. Ouattara compte, j'imagine, aussi là-dessus, sur cette communauté internationale qui fermera sans doute les yeux sur cet énième mandat au motif d'une stabilité, fut-elle factice, parce que, comme je disais tout à l'heure, ce régime est beaucoup moins stable qu'il n'y paraît en vérité. Il y a des éléments de fragilité sur lesquels éventuellement on pourra revenir.
Lesquels ? Venons-en tout de suite.
J'évoquais tout à l'heure le système sécuritaire qui s'est reconstruit, nous le disions, comme une espèce de d'armée nationale sur le fondement d'une rébellion. Donc il y a une armée qui reste malgré tout marquée par son origine rebelle et qui est aussi marquée par des tensions générationnelles et des frustrations très importantes, notamment du côté de ceux qui ont été intégrés dans l'armée ou de ceux qui en ont été exclus ou démobilisés et qui réclament encore aujourd'hui, depuis les mutineries de 2017-2018, un meilleur traitement. Et la capacité d'instrumentalisation de ces démobilisés ou de ces mutins demeure importante. On a évoqué notamment l'emprise de Guillaume Soro sur eux. Il est difficile d'en juger.
Mais il a su y répondre à ces mutineries.
Il a répondu.
Contrairement à Conan Bédier qui, en son temps précisément, les avait peut-être sous-estimés, ce qui avait conduit à sa destitution.
Il a répondu par une fuite en avant, c'est-à-dire en versant des sommes assez faramineuses à chacun des mutins et des personnels qui s'étaient rebellés, ouvrant d'ailleurs la boîte de Pandore des revendications catégorielles dans le pays. J'ai souvenir, effectivement, j'étais à l'époque en Côte d'Ivoire sur le terrain à ce moment-là, et on voyait poindre tout un ensemble de mouvements sociaux qui disaient « Attendez, nous, on n'a pas d'armes, mais on va les prendre s'il le faut pour réclamer, nous aussi, de l'argent. » Et Ousmane et d'autres l'ont vécu aussi, puisque à l'époque, c'était la grève des enseignants. Donc c'était aussi une boîte de Pandore qui s'est ouverte, une espèce de fuite en avant d'un modèle fondé sur la dette de guerre, en quelque sorte, et dont la fragilité repose effectivement précisément pour cette dette de guerre qui n'a jamais été véritablement soldée.
Ousmane Zina, à la fois sur la question de cette posture de la France dans la campagne qui vient, dans les élections à venir, et puis on pourra peut-être élargir aux institutions continentales et régionales, on pourrait aussi s'interroger sur la position de la CEDEAO et l'Union africaine. Mais d'abord sur la posture française, est-ce qu'on craint aujourd'hui en Côte d'Ivoire justement que la France n'essaye de d'ingérer dans ses affaires ?
Vous savez, la Côte d'Ivoire et la France, c'est une vieille histoire. Et donc, il est clair que la France observe de près, forcément, ce qui se passe à Abidjan. Et Ouattara, depuis son arrivée au pouvoir, a mis en avant l'idée de relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la France décomplexées. Et donc, même si c'est vrai qu'il n'est pas bien vu par les pro-Gbagbo, les visites de Ouattara à Paris, les rencontres avec Emmanuel Macron ou avant Emmanuel Macron, le président Hollande, ces différentes visites montrent effectivement que l'objectif du régime d'Abidjan, c'est de rester dans une collaboration franche avec Paris, et également d'avoir certains avis de Paris. Mais Ouattara en même temps rappelé récemment que les décisions qu'il prenait reposaient effectivement sur ce qui avait été mis en place en Côte d'Ivoire, respectaient les institutions ivoiriennes, mais cela n'empêchait pas effectivement d'avoir des échanges avec Paris. Il est clair que de ce que l'on voit, c'est que la France suit de près, effectivement, la France, l'Union européenne suivent de près ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Maintenant, Pour l'instant, c'est de laisser faire le jeu et ensuite voir comment est-ce que les choses vont évoluer afin de se positionner. Maintenant, Richard le soulignait et Ouattara a réussi à établir cette collaboration forte avec la France sur le volet, en mettant en avant le volet économique, en donnant une véritable assise économique à la France sur le plan économique en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est à dessein, c'est stratégique. La France joue l'équilibre. Ouattara également tente de convaincre sur sa formule de paix par la croissance économique. Et donc, on est vraiment dans ce jeu d'observation pour l'instant. Jusqu'à octobre, à mon avis. Donc, c'est un jeu d'équilibre.
Oui, bon, pour l'instant, c'est encore tôt, d'autant qu'en fait, en réalité, la campagne n'a pas officiellement commencé, puisqu'elle commence le 15 octobre, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, effectivement, il faut encore attendre. Richard Benegas.
Oui, je voulais ajouter un mot sur ce point, notamment du rapport à l'extérieur, du rapport à la France en particulier, car c'est quelque chose, effectivement, qui semble inscrite, en quelque sorte, dans l'histoire de nos deux pays, cette vieille relation quasi osmotique entre les deux régimes. Il ne faut pas oublier que c'est Fouad Boigny lui-même qui avait inventé le terme de France-Afrique, n'est-ce pas ?
Terme de Fouad Boigny.
Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut dire ici, c'est que la sensibilité souverainiste, anticoloniale, anti-française aussi, à certains égards, demeure quand même un registre de mobilisation assez fort en Côte d'Ivoire. Et pas seulement du côté des anciens jeunes patriotes de Laurent Gbagbo, c'est quelque chose qui traverse aussi le pays, même si ça s'exprime de manière relativement modérée aujourd'hui, cette volonté aussi de redéfinir sur d'autres bases la relation de la Côte d'Ivoire avec l'ancienne puissance coloniale est importante. Et ce qui me paraît important ici de souligner, c'est qu'en fait, elle recoupe très largement la problématique générationnelle que nous évoquions tout à l'heure. Car cette mobilisation nationaliste sur laquelle moi j'avais pas mal écrit dans les années 90-2000, eh bien, on le voit, est portée aussi par de nouvelles générations qui, à travers ce registre-là, parlent aussi d'autres formes d'émancipation. Et notamment vis-à-vis des aînés. Hein, cette chorocratie dont on parlait tout à l'heure, ce pouvoir des aînés, eh bien, il s'exprime aussi à travers la revendication d'une autre relation à l'Europe, à la France en particulier. Et cette problématique-là, même si aujourd'hui elle est mise sous le boisseau, elle pourrait très violemment revenir sur le devant de la scène si la France entérinait un scrutin déséquilibré.
Le pays devient joli, y a goudron partout. Y'a lumière partout, y'a même lumière dans le goudron. Merci au PPT.
Richard Benegas, dès les premières secondes, vous avez reconnu d'abord ce que c'est ?
Ah bah c'est on dit quoi de Yodé et Siro, n'est-ce pas, le zouglou politique de Yodé et Siro, qui ont été menacés quand même pour cette chanson qui pose quand même des questions majeures pour l'avenir du pays, compris quelque chose dont on a peu parlé aujourd'hui, mais qui est ce qu'on appelait le rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire, et l'affirmation assez massive des nordistes à la tête du pays et aussi à la tête des affaires. Donc ils ont mis le doigt sur quelque chose.
Donc la dépolitisation de la jeunesse ivoirienne, elle est relativisée. Vous l'avez...
Il y a DJ Kerosene d'un côté qui chante l'amour et l'émergence. Et puis de l'autre, il y a encore des zouglous patriotiques et politiques.
Merci infiniment, en tout cas à vous Richard Benegas, de nous avoir éclairé sur cette élection en Côte d'Ivoire à venir. Merci également infiniment à Ousmane Zina qui était avec nous en direct de la Côte d'Ivoire. On va tout de suite retrouver Brice Couturier, le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Vous nous parlez des États-Unis toute cette semaine, le dorlotage de l'esprit américain. Ce fut le titre d'un article publié par la revue The Atlantic il y a 5 ans. Et cet article a été tellement consulté, cité, critiqué que ses auteurs en ont développé les idées dans un livre devenu un véritable best-seller aux États-Unis. De quoi s'agit-il, Brice ?
Eh bien, d'une espèce d'inversion de tendance qui laisse les observateurs pantois et qui interroge sociologues et psychologues. Depuis les années 60, les étudiants avaient habitué leurs professeurs à réclamer la liberté d'expression, à contester les idées reçues, à transgresser les normes établies de leur milieu d'origine. Quelque chose d'étrange et de nouveau s'est produit à partir de 2013 précisément, relèvent les auteurs de ce livre « The Coddling of the American Mind » qui sont donc Greg Lukianoff et Jonathan Haidt. Les étudiants se sont mis à réclamer non pas la liberté de parole, mais la censure des idées qui ne cadrent pas avec leur identité, l'interdiction des personnalités qui leur causent un déplaisir. Et le plus curieux, c'est qu'ils invoquent, à l'appui de leurs exigences, des problèmes affectifs. Ils se sentent, disent-ils, menacés, agressés par la simple présence sur leur campus d'orateurs avec lesquels ils sont en désaccord. Leur sécurité émotionnelle serait menacée par un discours de personnalités telles que Condoleezza Rice ou Christine Lagarde, interdite de campus à plusieurs reprises après avoir été invitée à s'exprimer par des enseignants. À l'heure où les États-Unis, comme l'ensemble du monde occidental, cherchent à promouvoir des femmes à des positions de responsabilité à égalité avec les hommes, il aurait été pourtant intéressant d'entendre la première femme noire avoir dirigé le département d'État américain et la première française avoir été nommée ministre des Finances puis diriger le FMI. Comment en est-on arrivé à des exigences ubuesques telles que celles rapportées par Jenny Sook Gerson, une professeure de droit à Harvard, dans le New York Times? Des étudiants refusent d'assister à des cours portant sur la répression des violences sexuelles. Cela risquerait de réveiller chez certaines d'entre elles, disent-elles, le traumatisme de violences subies. Garçons et filles exigent de leurs professeurs un « trigger warning », les Québécois ont traduit par « traumavertissement ». Afin d'éviter l'assistance au cours dans les cas où donc la question du viol et sa punition est évoquée. Certains réclament désormais qu'un professeur de droit renonce carrément à employer le verbe « violer » dans l'expression « violer la loi ». Cela devient bien compliqué d'enseigner le droit pénal des violences sexuelles, écrit cette professeure. Comment pourrait-on enseigner la chirurgie à des étudiants avertissant qu'ils ne supportent pas la vue du sang?
Et alors Brice, comment les auteurs de The Coddling of the American Mind expliquent-ils cette forme d'hypersensibilité chez les étudiants?
Pour Haid et Loukianoff, les auteurs donc, on a affaire à une métamorphose récente de la sensibilité. Je cite « La réponse la plus probable implique un changement de génération, car c'est l'enfance elle-même qui a beaucoup changé durant la dernière génération. » Et il développe. Les enfants du baby-boom, comme ceux de la génération X, ceux qui sont nés donc entre 66 et 76, se souviennent d'avoir fait librement des tours de vélo dans leur enfance autour de leur quartier. Eh bien, à partir des années 80, les parents sont devenus plus suspicieux et plus protecteurs. Fini les tours de vélo sans la surveillance d'un adulte. Je cite à nouveau ce livre. « De toutes sortes de manières, les enfants nés après 1980, les millennials donc, ont reçu un message constant. La vie est dangereuse, mais les adultes vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous protéger du mal, non seulement de celui qui provient des étrangers, mais de celui que vous risquez de vous infliger mutuellement. » Les jeunes adultes d'aujourd'hui ont donc été dorlotés, surprotégés, et du coup, ils sont relativement mal préparés à affronter les défis de leur vie d'adulte. Mais ce qui se produit sur les campus américains depuis 7 ans démontre que l'on a affaire là à une génération complètement différente des précédentes. Ce sont en effet les premiers natives des réseaux sociaux. Facebook, on s'en souvient, a été créé en 2004, ouvert au public en 2006. Et on voit donc arriver à présent dans les collèges, ce qui correspond chez nous au premier cycle d'études supérieures, on les voit arriver la première génération à s'informer essentiellement sur les réseaux sociaux et non plus à travers la télévision ou les journaux comme les générations précédentes. Cette nouvelle génération a grandi en outre dans un environnement culturel extrêmement politisé. Les politologues parlent de polarisation partisane affective. Et Donald Trump a été élu en instrumentalisant des clivages idéologiques qu'il hystérise, créant aux États-Unis un climat, on le sait, peu proche de la guerre civile. La charge affective affectant les choix politiques est très élevée. En outre, la self-righteousness, la conviction d'être dans son bon droit, d'incarner une vertu supérieure, d'appartenir au bon combat qui caractérise la nouvelle génération, pousse certains de ses membres à des extrémités. Je signale que Jonathan Haidt, qui est donc l'un des deux auteurs de ce livre, a également consacré à cette question un autre ouvrage, traité donc sous l'angle de la psychologie, le fait de se sentir dans son bon droit. Ça s'appelle The Righteous Mind et ça a été publié en 2012.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Vous poursuivez la semaine américaine demain.
Avec le même bouquin.
Avec le même livre. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.